Salut.
Vos oreilles interceptant ces mots, il est donc de supposer que nous avons les mêmes préoccupations. Nous éprouvons ce besoin physique de vous faire part de nos coups de cœur, voire de les exprimer tout simplement. Goutte d'encre dans une mer d'informations, poignée de hertz alternatifs dans un océan de décibels. Des larmes de bonheur ou de rage plein les yeux après avoir vu un film ou lu un livre. Et voilà que nos voix s'en viennent charmer la bande FM. Et vous, chers auditeurs. Alors attention, soyez intelligemment en marge, lisez, regardez, soyez curieux, pour que personne ne le soit jamais à votre place. Oui, vous êtes sur Radio Bourdionnette et vous écoutez Les Détourneurs de Corbillard. Toujours bien content, bien à fond de vous retrouver sur l'antenne de Radio Bourdionnette. Toujours prêt à vous désarçonner. On vous attend là au bord des routes, prêt à vous emmener dans des embardées pas possibles, à la découverte de nouveaux territoires, de nouvelles sensations. Les présupposés, par exemple. Les présupposés. Ceux qui, avant tout débat, vous font croire que les choses sont et seront comme vous pensez qu'elles doivent être. Ceux contre lesquels notre artiste de la semaine se dresse avec force à propos. Imaginez-vous partir en pensant à une balade bucolique au soleil et finir les pieds dans la crasse vase du bayou, pas trop loin d'un bordel puant le foutre à 10 bornes à la ronde, alors que la moiteur du jour finissant devient la pénombre où tout peut vous arriver. Voilà ce qui vous attend si vous croisez Tao Nguyen, notre artiste de la semaine. Bonne émission. Vieilles cordes distendues, piano hirsute, percus sans fond et ces voix qui s'engrènent, se chantent les unes sur les autres. Tout pour le plus et plus de bordel. Un credo auquel on adhère à 150%. Alors si Tao Nguyen passe par chez vous, je vous le dis d'entrée, nous, c'est clair et net, on la suit. Tao Nguyen. Notre artiste de la semaine. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, on partait dans les limbes du cerveau attaqué de Bret Easton Ellis à travers la lecture sous influence de son dernier bouquin en date, Lunar Park. Lunar Park. Finalement, quel magnifique tremplin que ce bouquin. Magnifique tremplin pour autant d'émissions à venir. Si, si. Je vous jure, dans 2 secondes, je vous explique. Roi, la chute de la maison Usher, Bartleby, le scribe, le temps retrouvé, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et une belle palanquée d'autres fantômes littéraires qui sont passés et qui ont hanté Lunar Park. Comme vous l'entendez, le choix ne manque pas. Alors, pour le coup, aujourd'hui, essayons au moins de faire le bon, et ça nous changera, je pense. Vous êtes sur Radio Brojolette et vous écoutez Les Détourneurs de Corbillard.
Enfouis mon cœur, je le couvre de sang, de boue et de sueur. Et quand je mourrai, j'irai au paradis. Parce que c'est dans l'enfer.
Devant ces choix pléthoriques pour notre émission d'enchaînement après Lunar Park, le décryptage un peu de ce bouquin qui nous a quand même chauffé tout l'hiver, ben on a opté aujourd'hui pour Bartleby le Scribe, nouvelle de Herman Melville. Pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Parce que tu te tais.
Yimbe Afrika, gile luru dari jamari, jam arti, mobe suka bembelti. Aduna bonani boy, so dolin dunki, yo dole kebo, so kalfani juti, dembai ajarama. Wali baji turgi motu de yai Afrika, tede denyi demba jep di fodi re, fumu menti yem nek, teji jolof chivir kirki. Yudha, manen degin dat sai, degin dat sai, wali baji tugal menyo batun dat sai, mane wei len dat sai, wei len dat sai, wali baji tugal menyo batun dat sai.
Bye.
Le Scribe est un livre très court, à peine plus de 70 pages, une heure intense de lecture déstabilisante, une heure marquante, une heure de plus à chercher, une heure, c'est un peu moins que ça qu'il nous reste maintenant pour vous parler de ce livre, un livre très court, à peine plus de 70 pages, une heure intense de lecture déstabilisante, une heure marquante, une heure de plus à chercher, une heure, toujours plus, une heure. Bartleby est une histoire assez marrante, plutôt intrigante, fin de compte, inquiétante même parfois, et tellement triste. Ouais, sacré bric-à-brac à sensation. Une foire aux sentiments où il n'y aurait pas de bonimenteur. Mais vraiment, que des gens marrants, intrigants, inquiétants et tristes à la fois. Un drôle d'endroit pour un drôle de moment, en quelque sorte. Est un copiste, il arrive dans la vie du narrateur, un notaire entre deux âges. Il travaille pour lui, il retranscrit soigneusement des textes, il travaille dur, très dur, enfin, quand il le fait. Parce que souvent, et de plus en plus, Bartleby ne veut vraiment plus rien faire.
Jesus.
Bartleby le Scribe est en fait le récit d'un homme de loi qui est nommé conseiller à la cour de la chancellerie. Il travaille dans ses bureaux à Wall Street et il a sous ses ordres deux scribes et un garçon de bureau. Sa charge de boulot s'accroissant suite à sa promotion, il décide de recruter un troisième scribe. Arrive alors Bartleby. Il va sans dire une part indispensable du travail du scribe que de vérifier mot à mot l'exactitude de sa copie. Lorsqu'il y a deux scribes ou plus dans une étude, ils s'assistent mutuellement dans cet examen, l'un lisant la copie, l'autre prenant en main l'original. C'est une besogne ennuyeuse, monotone et soporifique. J'imagine aisément qu'elle puisse être absolument intolérable à certains tempéraments sanguins. Je ne saurais affirmer, par exemple, que le fougueux poète Byron se fût assis d'un cœur content aux côtés de Bartleby pour collationner un document de, disons, 500 pages d'une écriture serrée et chafouine. De temps à autre, j'avais accoutumé, dans la presse du travail, d'aider moi-même à la vérification de quelques brefs documents, appelant Dindon ou Lagrinche à cet effet. Si j'avais placé Bartleby aussi près de moi, derrière le paravent, c'était précisément pour user de ses services à ses menues occasions. Il était, je crois, depuis 3 jours avec moi et ses propres écritures n'avaient pas encore dû être collationnées lorsque, fort pressé d'expédier une petite affaire en cours, j'appelais tout à coup Bartleby. Dans ma hâte et dans ma confiance naturelle en son obéissance immédiate, j'étais assis, la tête penchée sur l'original, et ma main droite tendant la copie de flanc avec quelque nervosité, afin que Bartleby puisse en saisir dès l'instant qu'il émergerait de sa retraite, et se mit au travail sans le moindre délai. Telle était donc exactement mon attitude lorsque je l'appelais, en lui expliquant rapidement ce que j'attendais de lui. À savoir qu'il collationna avec moi un bref mémoire. Imaginez ma surprise, non, ma consternation, lorsque, sans quitter sa solitude, Bartleby répondit d'une voix singulièrement douce et ferme. « Je préférerais pas. » Je gardais pendant quelques instants un silence parfait afin de rassembler mes esprits en déroute. L'idée me vint aussitôt que mes oreilles m'avaient abusé et que Bartleby s'était entièrement mépris sur le sens de mes paroles. Je répétais ma requête de la voix la plus claire que je puisse prendre. Mais tout aussi clairement retentit la même réponse que devant. Je préférerais pas. Je préférerais pas. Cette phrase devient, à partir de ce moment, un véritable leitmotiv dans la bouche de Bartleby. Le narrateur, surpris, au lieu de se mettre en colère, comme tout bon vieux patron empreint de hiérarchiques habitudes, se trouve là un brin estomaqué, inquiet, pour finir par chercher à comprendre les raisons de ses refus successifs. Alors il imagine lui-même, devant le mutisme de Bartleby, des raisons on ne peut plus loufoque, et finit par se prendre de pitié pour cet homme. Finalement, c'est pas grand-chose de Bartleby, le suspense petit à petit s'installe. Pourquoi ces refus ? Cet homme est une intrigue dont l'univers est résumé dans une unique phrase qui plonge son interlocuteur dans le doute et la perplexité. I would prefer not to. Je préférerais pas. Curieuse réponse à bien y regarder. Curieuse réponse à un ordre donné. À la fois ferme et définitif, mais excessivement neutre, calme et courtois. Bartleby, ou l'inconditionnelle force diplomatique du ni oui ni non. C'est vrai que Bartleby est plutôt poli, irréprochable. Irréprochable, ouais. Ce qui est désarmant, en fait, dans tout ça, c'est pas tellement la phrase en elle-même, mais c'est cette absence de raison. Pourquoi il dit ça ? La ribambelle, explication qu'on est en droit d'attendre, après une telle phrase, on l'a pas. C'est vrai, quoi. On sait pas. Pourtant, c'est qui le patron, là, quand même ? Je préférerais pas.
Just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. There's a noise in his head and he's out of control. And yes, it frustrates. Let's let him make his own mistakes on the dance floor. Watch him go now. Boy, those moves, I just don't know how. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. He's only 22 and he's out of control. How's he living with all of that? Unforgiving on the dance floor. Watch him go now. Boy, those moves, I just don't know how. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. There's a noise in his head and he's out of control. He no longer listens to A-sides. He made me a tape of bootlegs and B-sides. And every song, every single song on that tape said exactly the same thing. Why don't our parents worry about us? Why don't our parents worry about us? My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. He's only 22 and he's out of control. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. There's a noise in his head and he's out of control. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll.
Alors comment interpréter cette résistance passive ? Eh ben, franchement, on peut se poser la question, quoi. À quoi bon ? À quoi bon essayer, quoi ? À quoi bon ?
Super.
Alors comment interpréter cette résistance passive. Et franchement, on peut se poser la question, à quoi bon ? Rien empêchera tout doucement Bartleby de devenir une énigme, et plus qu'une énigme, une véritable épreuve pour son entourage. Le lecteur, toi peut-être, bientôt, hein. Le lecteur, lui, est beaucoup moins à la ramasse, moins naïf que ce patron. Et voit bien que Bartleby est un manipulateur qui abuse de la bonté de ce pauvre gars. Pas vrai, hein ? Tu l'as senti ? Ce pauvre patron sans défense, quand même. Le pauvre. Peu cher. Hop, oh, peu cher. Allez, dernière ligne droite. Dimanche matin, alors que le narrateur se rend à son étude pour y travailler, il voit que Bartleby est là. Et ce dernier, dérangé par cette visite impromptue, lui demande de repasser plus tard. Le narrateur, interloqué au possible, obtempère pourtant, et revient plus tard dans son bureau pour observer que l'étude est devenue son toit. Plutôt que de monter en pression, grimper dans son pommier, Bartleby lui fait... encore une fois, pitié. Et il imagine alors que ce pauvre gars n'a nulle part où aller. Il accepte tant bien que mal cette situation. Et de fait, avec d'autant plus de perplexité que les événements qui vont s'enchaîner sont les plus percutants. Bartleby ne sort plus déjeuner, ne veut plus faire de copie après avoir déjà refusé de collationner, refusé de quitter l'étude pour finir par refuser son propre renvoi. Oh, quand même, quel culot ce Bartleby!
Stop!
Les efforts du narrateur pour amener Bartleby à la normalité s'effondrent alors les uns après les autres. Tout bonnement parce que basé sur des présupposés. Encore eux, selon lesquels, par exemple, un patron peut commander, un ami peut poser des questions, etc., etc., etc. Alors que, face à ces présupposés, la formule de Bartleby, elle, désamorce tout acte de parole, coupant court à toute communication normale entre deux personnes. Bartleby, c'est un peu l'incarnation, la pulsion de mort, une attitude suicidaire mise à jour. C'est un texte qui a 10 000 interprétations en fait, hein, autant porteur de l'exégèse de l'homme aliéné par son travail, le travailleur opprimé, le martyr de la vie moderne, qu'à contrario, le support, le sujet est reconnu de réflexion de professionnels du management. En effet, écrite à l'avènement du capitalisme, cette nouvelle a été étudiée, réétudiée sous tous les angles, notamment celui de la question de l'obéissance à la hiérarchie, de la flexibilité, de la notion même de travail. Choisis ton camp, camarade.
صمرت عيون بديتي ناري سلبتي بالي النوم يا حناني سكنتي قدامي ووقفك عذابي ديما مرايا ونينا قدامي غيرتي المنوك ورديتي بالعاني علاش جاية المولى للعالي صبري ولتي ما جيتي صمرت اللون بديتي ناري حتساب عينيك خايف المواج لا تديك كل حق راح تلعب فيك فوت زمان وعادت فيك صبح ندمان وتحس فيك ما تلقى لحن إلا نفيك رجعت لغبني بالله ويدي صبري ولتي ما جيتي
Bartleby le Scrip reste savoureux, un subtil mélange de grave et d'absurde, pesant autant que léger. Et surtout, il reste une énigme entière jusqu'à la fin du bouquin. Et pour qui veut bien l'apprendre, c'est aussi une belle leçon à mettre en pratique quand, dans sa difficile condition d'employé, de sous-fifre, d'oppressé, quand les problèmes et les pressions pleuvent à gogo, encore mieux que la tactique du parapluie qui, elle, a plutôt tendance à faire et arroser les voisins, la tactique du scribe, la Bartleby, risque de bien vous faire kiffer. Inoffensive et imparable, mieux qu'un coup de gueule, rien ne vaudra plus qu'un bon vieux, je ne préférerais pas. Bien placé, bing, bang, dans les dents. Un bon lecteur, salut. J'espère que vous vous plongerez dans cette lecture rapide des 70 pages de Bartleby le Scribe. Et ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end. Je vous laisse avec Hervé, la tribune sportive football. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour continuer à décrypter les implications de la lecture de ce fameux bouquin de Heston Ellis, Lunar Park. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.